au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Bertrand Gallimard Flavigny.
Bonjour, je suis le bibliologue. Aujourd'hui, Évin le Cid. Corneille avait un petit-neveu, Bernard de Fontenelle, vous savez, le centenaire, qui vécut de 1657 à 1757 et qui fut aussi son premier biographe. Il a laissé la fameuse formule « Pour trouver le grand Corneille, il fallait le lire ». Ce que des générations d'illettrés et d'écoliers n'ont pas manqué de faire. Plus rares sont ceux qui ont pu suivre le Cid dans une impression d'époque. Il ne subsiste plus que 16 exemplaires connus, dont 4 en main privée, de l'édition originale imprimée. Nous en avons vu deux récemment. Le premier, provenant de la bibliothèque de Charles Arouguois, un bibliophile belge, avait été exposé à la Biennale des Antiquaires de Paris en 2004 et proposé à environ 168 000 euros. En saisissant cet exemplaire, nous sentions qu'il avait été apprécié. Un certain Servet y avait inscrit son nom avec la date de 1720. On distingue sur la page de titre des essais de plumes, dont l'un pourrait représenter un arbre, à l'imitation de la palme ancienne du libraire, qui figure dans une vignette gravée sous le titre. On lit enfin une indication, commencée le 30 juin 1756. Le second, provenant de la bibliothèque Roger Hilde, a été adjugé le 7 avril 2006 à Drouot pour la somme de 249 879 euros. Il est également relié en venin d'époque et est conservé dans une boîte en maroquin exécutée par Madame Alix, un relieur renommé. Nous devons également préciser que quelques feuillets liminaires ont été anciennement restaurés avec reprise à la plume de plusieurs mots. Ces deux exemplaires de l'édition originale de Cid ne mentionnent pas la même adresse bibliographique. Le premier indique Augustin Courbet, le 24 mars 1637. Le second, chez François Targat, le 23 mars 1637. Il ne faut pas s'en étonner, les pièces de théâtre étaient d'ordinaire publiées en édition partagée entre plusieurs libraires. Seule, l'adresse de la page du titre était modifiée au moment de l'impression. Les deux éditions présentent des variantes de texte dont l'étude en l'absence du manuscrit ne peut donner d'indication absolue quant à l'autoriété de l'une ou de l'autre, explique Maître Michel Dubourg, un bibliophile cornélien qui penche naturellement pour celle de Targat, que les bibliophiles préfèrent. Cette petite journée explique la différence de prix que nous venons de mentionner. Mais les bibliographes ont tranché. Courbet est le premier dans le temps. Il faut savoir en effet que Corneille avait déjà une idée de la diffusion. Il faisait imprimer ses livres par Maury, dans la rue aux Juifs à Rouen, et en confiait la vente à plusieurs libraires à Paris. C'est la raison pour laquelle on voit sur les pages du titre ces doubles mentions. Passons maintenant à la deuxième édition in carto de Cid qui pourrait prêter à confusion car, à l'adresse de François Targat, elle est datée du 24 mars 1637. Quant à la première édition dans le format N12 plus commun, elle porte les deux adresses ensemble chez François Targat et Augustin Courbet, toujours en 1637. Tout cela est bien subtil, mais sans ces différences, le bibliologue n'aurait rien à étudier et les bibliophiles ne ressentiraient pas l'excitation du collectionneur. Et d'où vient le Cid, que nous savons avoir été un héros de la Reconquista espagnole? Au XVIIe siècle, la longue migration des maranes vers les provinces unies via Bayonne, puis Bordeaux, Lyon d'un côté et Rouen de l'autre, a fait de ces villes des centres très importants de la culture hispanique, notamment dans le domaine de l'édition. Par exemple, l'édition originale des aventures de Don Quichotte, ou Don Quérote, en 1605, conservée à la bibliothèque municipale de Rouen, a appartenu à un marane. Corneille emprunta son sujet à l'œuvre de Guillaume de Castro, La Mocedades del Cid, qui date de 1621, dont il n'existait pas de traduction française. La première du Cid a eu lieu le 6 décembre 1636 avec un succès immédiat. Suivirent aussitôt deux représentations officielles, l'une au Louvre, l'autre au Palais Cardinal. Mais Richelieu n'apprécia pas. Il conçut une jalousie enragée contre le Cid à cause que ses pièces des cinq auteurs n'avaient pas trop bien réussi, devait noter Talmont des Réaux dans ses historiettes. On se souvient aussi des propos tenus par Boileau dans la Satire 10. En vain contre le Cid, un ministre se ligue, tout Paris pour Chimène à les yeux de Rodrigue, l'Académie encore a beau le censurer, le public révolté s'obstine à l'admirer. Boileau faisait ainsi allusion au sentiment de l'Académie sur le Cid, imprimé par Camusat en 1638, rédigé principalement par Jean Chapelain, qui était sa cible favorite. Bref, la querelle du Cid n'entacha pas la carrière de Corneille. En 50 ans, Pierre Corneille composa 35 pièces de théâtre, dont 3 écrites en collaboration, toutes en 5 actes. Cette carrière d'auteur dramatique est l'une des plus longues parmi nos classiques, hormis Voltaire. Curieusement, c'est davantage grâce à ses traductions d'ouvrages religieux plutôt qu'à ses pièces qu'il fit fortune. Son Imitation de Jésus-Christ, imprimée à Rouen en 1751 par Maury, ne comprend en fait que les 20 premiers chapitres du livre premier. En ne publiant qu'une partie de l'ouvrage, Corneille souhaitait ainsi se rendre compte du goût du public. C'était un investissement. Et les éditions se succédèrent et poursuivent le conseil de Jules Janin. Si vous croisez l'illustre théâtre de Monsieur de Corneille, à la date de 1644, ne le manquez pas, il contient les 5 chefs-d'œuvre du grand Pierre. L'édition définitive publiée par Corneille, donnant le texte revu adopté par lui et intitulé « Théâtre revu et corrigé par l'auteur », imprimé pour Pierre Trabouillet en 1682. Nous en connaissons un exemplaire, relié aux armes de Marie-Louise d'Orléans, duchesse de Montpensier, dont on se souvient davantage grâce au surnom de la Grande Mademoiselle. Durant la Fronde, cette royale princesse, installée sur les tours de la Bastille, fit tirer sur les troupes royales massées sur le faubourg Saint-Antoine pour protéger la retraite de Condé. Elle n'épousa pas son cousin Louis XIV et refusa l'empereur d'Allemagne car elle aimait Lauzun. On ne connaît que 80 volumes provenant de sa bibliothèque de cette authentique héroïne cornélienne. Combien de bibliophiles aimeraient dénicher un exemplaire d'un des titres de Corneille lui en appartenu mieux encore qu'un manuscrit. Il serait comblé au-delà de toutes ses espérances, mais aucun manuscrit d'un grand classique n'est parvenu jusqu'à nous. L'un d'entre eux possède pourtant son mot de Corneille, une lettre autographe. Ce projet de procuration d'à peine 10 lignes n'est certes que le pâle brouillon d'une scène, y mène une réplique. Il est de la main de Corneille et cela suffit. J'ai mon Corneille à moi, dit le bibliophile, je le trouve touchant.